MCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach. Ah, que je suis content de commencer cette semaine avec vous. Bienvenue dans votre émission pour l'enseignement et la maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ qui sont capables de connaître, vivre et imiter la vie de Jésus-Christ à travers la Bible, bien sûr, la parole de Dieu. Le début de cette semaine, bien sûr, c'est la suite de la semaine passée. Nous sommes en train de continuer le grand thème des méthodes d'études bibliques. Pourquoi étudier la Bible et comment s'y prendre? On a déjà commencé à apprendre ce qu'on appelle la méthode d'études inductive. À l'intérieur, il y a observation, interprétation et application. Aujourd'hui, donc, nous allons nous poser la question, quelles sont les règles pour interpréter la Bible? Parce que nous sommes au point 2 de l'étude inductive. Quelles sont les règles pour interpréter la Bible? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. J'aimerais commencer par vous dire que lorsqu'on voit la Bible, on doit toujours, pour quiconque veut interpréter la Bible, doit toujours se souvenir de ces deux choses. C'est que dans la Bible, il y a deux différents types d'inspiration. On appelle ça l'inspiration verbale et l'inspiration plénière. C'est-à-dire, la Bible est inspirée de Dieu. Quand on appelle l'inspiration verbale, ça veut dire que la Bible est inspirée de Dieu, chaque mot, chaque parole, les manuscrits originaux, chaque mot fut inspiré par Dieu. Quand on dit aussi que l'inspiration est plénière, ça veut juste dire que la Bible complète, par opposition à une inspiration partielle, où une partie de la Bible est inspirée, une autre n'est que totalement humaine. Celui qui veut réellement interpréter la Bible, réellement vivre un disciple de Jésus doit savoir. Chaque mot est inspiré par Dieu. Toute la Bible est inspirée par Dieu. Il y a certaines personnes qui regardent dans la Bible comme un livre où il y a quelques phrases de Dieu, quelques parties où Dieu a parlé seulement au moment où les prophètes ont dit Dieu a parlé. Or, la Bible elle-même reconnaît que Elle est inspirée de Dieu. Même quand on racontait une histoire des faits, de comment Jésus a vécu en quatre angles différents, quatre auteurs, chaque auteur est inspiré de Dieu. Lisons ensemble 2 Timothée chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader pour apprendre à nous connaître et pour nous convaincre de péché, pour refuter les erreurs et rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Voilà, car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration. J'aime bien cette traduction. L'Écriture, dans toute son entièreté, a été rédigée sous l'inspiration. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20 à 21, la Bible dit « Notez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne reflète la pensée personnelle de son auteur. Un message prophétique n'émane jamais d'un caprice. Un message prophétique n'émane jamais d'un caprice humain. Ces saints hommes de Dieu ont parlé parce que le Saint-Esprit les y pousser. Et ils ont prononcé les paroles que Dieu leur inspirait. » Ces hommes ont parlé, pas parce que c'était juste des caprices des hommes, Dieu leur a insufflé la pensée qu'ils devaient écrire. Que ce soit la façon de décrire un fait, que ce soit la manière de raconter une histoire, l'écriture, toute l'écriture est inspirée. Il y a dans la Bible beaucoup de, je vais appeler ça de doublons, des répétitions de faits. Que ce soit dans un roi, qui reviennent encore dans Chronique, un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques, vous trouvez beaucoup de répétitions de faits. Quelque chose qui s'est passé dans Néhémie se retrouve aussi dans Esdras. Ils étaient contemporains, ils ont vécu la même histoire. Paul, le même Paul écrit à l'église d'Éphèse, écrit aussi aux Colossiens, plus de 90% il écrit plus ou moins la même chose. Mais chaque fois que ces choses sont répétées, il s'agit toujours de l'inspiration de Dieu et chacune de ces parties est réellement inspirée, pleinement inspirée par Dieu. Maintenant qu'on est ensemble convaincus que la Bible dans son entièreté est inspirée par Dieu, mot par mot, alors nous pouvons aborder la question d'interpréter la Bible. Je veux que vous puissiez comprendre l'approche de cette émission. Teach a pour but de vous informer. C'est-à-dire qu'il y aura toujours certaines informations, des mots inhabituels, ainsi de suite, un disciple doit apprendre. Mais aussi de vous former. C'est-à-dire qu'on va ordonner les informations que vous aviez déjà et celles que vous découvrez pour que vous les ayez de façon systématique dans votre tête. Alors, il y aura toujours un petit côté comme si ça ressemblait à une école, bien sûr. C'est ça, être un disciple. Et enfin, Teach a pour but de vous amener à la transformation. Ce que nous vous apprenons et ce que nous partageons ensemble ici, c'est pour qu'une fois qu'on ait compris le processus mental, on laisse couler jusqu'à vivre cela en réalité. Donc, lorsque je parle ici des règles pour interpréter la Bible, c'est pas pour que vous deveniez un juge des Écritures dans votre assemblée. Disant, non, ce qu'il a dit là, c'est du n'importe quoi. Moi, j'avais suivi Teach. Dans Teach, on dit pas ça. Non. Le but, c'est que chacun de nous ayant appris ces choses, vive la parole de Dieu, comprenne la parole de Dieu pour lui, suive le Seigneur Jésus-Christ. Alors, interpréter, quand on étudie la Bible, lorsqu'on arrive à l'étape d'interpréter, on se pose la question, qu'est-ce que cela signifie? On veut comprendre le sens. Les principes de l'interprétation est de découvrir ce que l'auteur voulait dire au travers de ce qu'il a écrit. Il y a toujours ce qu'on dit et ce qu'on voulait dire. Il y a toujours ce qu'on écrit et ce qu'on voulait écrire, ou bien ce qu'on voulait dire. Ce qu'on voulait dire, c'est vraiment l'intention, c'est vraiment la pensée qu'on a. Ce qu'on dit, c'est les vocabulaires qu'on utilise. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. D'être dans une discussion ou de parler à quelqu'un, de me dire, oui, tu sais, le mardi, je reviendrai, mardi, jusqu'à ce que la personne me dise, c'est le mardi que ça doit se faire. Moi, j'ai dit quoi? Non, mais tu disais mercredi. Franchement, dans ma tête, je n'ai même pas un instant dit mercredi. Je pensais que je disais mardi chaque fois. Dans ma tête, ça sonne mardi parce que je sais que c'est mardi. Mais dans ma bouche, je continue à dire mercredi. Donc, il ne suffit pas juste de savoir que dit l'auteur, mais que pense l'auteur? Qu'est-ce que l'auteur voulait dire, nous faire comprendre? Mais aussi, qu'est-ce que les premiers interlocuteurs et les premiers destinataires ont compris? Qu'est-ce que l'auteur voulait dire? Et qui, ceux qui étaient devant lui, qu'est-ce qu'ils ont compris de ça? Qu'est-ce qu'ils étaient censés comprendre? Et qu'est-ce que ceux à qui il a destiné ça, premièrement? Vous ne pouvez pas comprendre le livre d'Éphésiens ce que Paul ne voulait pas que les Éphésiens eux-mêmes comprennent. Non, les premiers destinataires, les premiers interlocuteurs, ce sont vers eux que l'auteur parle. Alors, interpréter la Bible, c'est comprendre ce que l'auteur avait en tête. Déduire ce que l'auteur avait en tête. Déduire ce que son auditoire a compris, ses interlocuteurs ont compris, ses destinataires ont compris. C'est ça, interpréter la Bible. Je vais vous lire Marc chapitre 7, versets 2 à 4. Parce que interpréter la Bible demande le contexte et aussi d'examiner les règles de l'interprétation. Vous devez avoir les règles du contexte et les règles de l'interprétation. Le texte là, lisons-le. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavé soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme les lavages de coupes, des cruches et des vases d'airain. Marc écrit à ce... J'ai déjà eu le temps d'expliquer ça ici. Les premiers interlocuteurs de Marc sont des chrétiens d'origine grecque. On raconte que Marc a été un des interprètes de Pierre pendant ses moments de prédication, quoique les liens de famille ou de parenté. Mais il l'interprétait beaucoup aussi quand Pierre allait enseigner la parole de Dieu parce qu'il avait un meilleur niveau d'expression du grec. Et lorsque Pierre semblerait qu'il n'était plus dans le parage, les gens qui écoutaient la prédication l'ont réclamé, mais les choses qu'il nous disait là, on aimerait les écouter. Est-ce qu'il n'y a pas un document pour ça? Marc écrit pour résumer les prédications de Pierre et il est le tout premier à écrire. C'est pourquoi le livre de Marc est ça, il est plus court parce que c'est comme si on essayait d'écrire les dires de quelqu'un. Il y a très peu d'indices de temps, il y a très peu d'élaboration dans la façon de raconter certaines histoires parce qu'il s'agit de résumer aussi ou de réécrire ici ce qui était prêché. Mais Marc, puisqu'il sait à qui il parle, il veut montrer le fait que les disciples ont connu un problème où les autres, le pharisien, un scribe, ainsi de suite, se plaignaient d'eux sur un comportement. Mais il se rend compte que ses interlocuteurs ne vont pas comprendre ça. Les gens se plaignent parce que d'autres n'ont pas lavé les mains. C'est quoi l'affaire? Alors, il leur explique dans le contexte de la vie des Juifs, dans la pratique du judaïsme, combien c'était important de se laver les mains. Ce n'était pas seulement un geste d'hygiène, mais aussi un geste rituel. Alors, il l'explique et il met même une petite note en disant, à part le fait de laver les mains, les Juifs avaient d'autres types d'observances. Cette partie-là, c'est important pour la contextualisation. Ça permet de bien interpréter ce texte-là. Et figurez-vous quoi, la Bible elle-même a déjà mis ça à l'intérieur pour nous aider à interpréter le texte. Pourtant, ce n'est pas comme ça partout où on expliquerait chaque chose. Ce n'est pas partout de cette manière-là où on nous met déjà dans le contexte parce que ceux qui écrivaient ces textes, surtout par exemple dans l'Ancien Testament, ne pensaient pas les destiner à un autre peuple que les Juifs. Ou lorsque les faits s'est déroulé, on ne s'imaginait pas qu'on serait en train de le dire en français aujourd'hui. Les premiers interlocuteurs étaient là, les premiers destinataires étaient là. On savait qu'entre eux, ils savaient qu'ils se comprenaient. Alors, maintenant que nous, on arrive dans l'affaire, qu'on a bien observé chaque détail, comment il faut l'interpréter? Voici quelques règles. Ici, je ne vais pas vous donner toutes les règles théologiques, sachez-les bien. Notre but, ce n'est pas de remplir nos têtes. Notre but, c'est de nous donner l'essentiel pour que nous bâtissions notre foi en tant que disciples, en commençant quelque part, certainement par le lait, mais montant petit à petit, par la grâce de Dieu, vers une nourriture solide. Voici les quelques principes. Premièrement, ça s'appelle la règle de l'intention originelle. Interpréter la Bible, mes frères et sœurs, on doit toujours se dire le sens original, c'était quoi? L'auteur voulait dire quoi, lui? Ne déformez pas le texte biblique pour y mettre ce que vous voulez. Ne regardez pas le texte en disant « Ah, moi, chaque fois qu'on dit ça, moi, j'ai toujours pensé à… » Non, 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 il ne s'agit pas que toi, tu penses à quelque chose quand tu entends cette phrase-là. Il s'agit à toi de comprendre ce que ce texte-là dit. Je me rappelle une fois, un ami m'a raconté quelque chose s'est passé une fois, ils étaient en retraite de la jeunesse et l'un des responsables de la jeunesse dirigeait une étude biblique. Il dirigeait l'étude biblique et il a cité un texte, c'était un texte de psaume. Et c'est ça que les jeunes étaient en train d'étudier. Et la Bible dit, les fils sont une bénédiction de l'Éternel, heureux celui qui en remplit son carquois. Et le jeune était un peu perdu, il s'est dit, le mot carquois là, ça signifie quoi? On s'est mis à débattre, oui, carquois, c'est... surtout quand on lit la Bible dans la version seconde. Il y a bien de petits mots comme ça qui sont assez anciens. Carquois. Et puis bon, à lui de prendre la parole, il leur dit, carquois, franchement, vous ne connaissez pas carquois? Carquois. Son geste ne disait pas carquois du tout. Son geste, il voulait bien expliquer, mais ce qu'il montrait là, c'est pas ça le carquois. Pas du tout. Mais c'était lui l'encadreur pourtant. Si il n'a pas compris ce que les autres ont compris à l'époque de la Bible, tout le monde est perdu. Imaginez-vous que ces jeunes-là aient fini leur méditation, c'est disant que c'est ça carquois. Ils ne s'imaginent pas que carquois, c'est là, et on tire la flèche, on y met les flèches, d'autres les mettent de ce côté-ci. C'est le porte-flèche. Pour eux, carquois, c'était carrément. Pour eux, c'est ça, la lance qui est le carquois. Et lorsque un texte se met à vous dire autre chose, vous ne comprenez pas le sens originel du texte, vous ne pouvez pas bien interpréter la Bible. Alors la Bible, l'interprétation de la Bible exige que vous puissiez comprendre originellement que voulait dire ces textes-là, son sens original, son sens à l'origine. Deuxième règle, la règle du sens littéral. Il est demandé que lorsqu'on interprète la Bible, on puisse d'abord considérer que la Bible dit ce qu'elle dit. Pas elle voulait dire quelque chose. Que tout ce que la Bible raconte est tel que la Bible raconte d'abord. Si vous prenez tous les textes de la Bible et commencez déjà à chercher un sens allégorique, mystique, vous pouvez vous perdre. On dit que Jésus entrant dans la maison de la belle-mère de Pierre, Jésus entra vraiment dans la maison de la belle-mère de Pierre. Ne commencez pas par, voyez, Jésus, quand il entre la maison de belle-mère de Pierre, c'est comme amener l'évangélisation dans sa belle famille. Waouh! Quelle révélation, diraient certains. Mais vous êtes allé complètement à côté. Jésus était vraiment, physiquement, entré dans la maison de Pierre où il a trouvé sa belle-mère. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Pour interpréter la Bible, considérez d'abord que les choses sont telles qu'on les a dites. Il existe bien sûr des sens symboliques, allégoriques, figuratifs, des paraboles même dans la Bible. Mais chaque fait est tel que la Bible dit. Considérez les choses d'abord de façon littérale. Troisième règle, la règle de logique. Mes amis, c'est la Bible. Le Saint-Esprit nous inspire, Dieu nous demande de la lire, de la méditer. Dieu sait que nous fournissons un effort d'abord intellectuel avant de pouvoir découvrir cette affaire spirituelle qui est à l'intérieur. Donc la Bible est un document de logique. Il faudrait qu'il existe naturellement les règles logiques de langage, normal de grammaire. Ce sont des langues. Afin que signifie afin que. C'est-à-dire, la logique d'une langue, la logique d'une réflexion est à l'intérieur. On doit respecter cela. Quand vous voulez interpréter la Bible, respectez les règles de la logique. Je ne parle pas nécessairement de la logique formelle des prémices et des conclusions et des syllogismes nécessairement. Je parle du bon sens ici. Du reste, vous savez que la Bible dit dans Jean chapitre 1er, au premier verset, n'est-ce pas? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le texte dit, au commencement était le Logos était avec Dieu. Le mot Logos ne se traduit pas seulement par parole, il se traduit aussi par logique. On pourrait dire qu'au commencement, il y avait une logique de Dieu. Dieu a toujours eu sa façon de voir les choses. Et Dieu, au commencement, a sa propre logique. Quand vous commencez à étudier la Bible, il y a une logique à l'intérieur. La Bible n'est pas une folie. La Bible est une logique parce que Dieu lui-même est logique. Mais ce n'est pas la logique formelle, c'est peut-être pas la logique des hommes, mais il y a une logique que toute langue, tout langage devrait respecter. Troisièmement, quand vous voulez étudier la Bible, vous voulez interpréter la Bible ici, il y a une autre règle, on appelle ça le principe christologique. Ok, attendez. Christologique. Pasteur Atom, c'est les titres, il y a beaucoup de gros mots. Désolé, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il veut juste dire par là, le principe selon lequel toute la Bible doit être interprétée en tenant compte de Jésus-Christ comme le thème principal. C'est-à-dire, tenez compte du fait que dans l'Ancien comme dans le Nouveau, il était question de lui. Interpréter la Bible à la lumière de Christ. Certains trouvent encore un mot plus compliqué. Ils diraient l'interprétation christocentrique. Mais tenez compte du fait que Jésus devait venir, il a été promis. Il est venu, il a vécu, mort et ressuscité, et reviendra bientôt. Et c'est lui le thème principal de la parole de Dieu. Tenez compte de ça. Cinquièmement, ça s'appelle la règle de l'unité. C'est-à-dire, laissez la Bible vous aider à comprendre d'autres passages de la Bible. La Bible ne se comprend que par la Bible. Laissez la Bible vous expliquer elle-même ce qu'elle veut dire. L'essence de certains mots se trouve à travers des passages similaires. Ce n'est pas toujours en allant vers un dictionnaire de langue que vous comprendrez un mot de la Bible. Parce que son sens peut être essentiellement biblique et non pas grammatical comme on l'utilise d'habitude. Ça veut dire que la Bible peut être en train de l'utiliser dans son sens propre, Alors, la Bible est une. Laissez la Bible s'interpréter elle-même. Laissez une partie de la Bible interpréter l'autre. On dit que l'on interprète le nouveau par l'ancien. On interprète, on trouve l'éclairage du nouveau. L'ancien s'accomplit dans le nouveau et on interprète le nouveau par l'ancien. Donc, ces deux parties de la Bible sont une et vous permettent de bien interpréter la parole de Dieu. 6. La règle de la prise en compte du contexte. Quand on interprète la Bible, sachez-le bien qu'il y a des règles d'exégèse qui sont obligatoires dans l'herméneutique. Et la démarche exégétique a déjà une dimension de l'interprétation. Vous ne devez plus avoir peur de ces termes, n'est-ce pas? On a déjà vu ça ensemble. Ça veut dire que quand vous faites un travail d'étude de contexte, vous avez déjà commencé petit à petit à interpréter le texte. Et quiconque interprète les textes est obligé d'avoir pris en compte le contexte. La règle donc de la prise en compte du contexte signifie que vous devez tenir compte de la totalité des éléments qui vous permettent de comprendre ce texte, comprendre ce mot. Les autres mots, les autres passages, les autres versets, les autres livres, les autres écrits du même auteur, tous les éléments qui sont autour de la compréhension d'un texte. Est-ce que vous savez, voilà, je vais vous scandaliser. Est-ce que vous savez que la Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu? Oh! Est-ce que vous savez que la Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu? Attendez avant d'aller loin. Je ne suis pas en train d'affirmer. Je suis en train de dire que ce mot-là est comme ça dans la Bible. Et si vous tombez entre des mauvaises mains, quelqu'un vous fera exactement ce que je viens de faire maintenant et vous croirez que vraiment la Bible affirme que Dieu n'existe pas. On lit les textes. Psaume 14, verset 1. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Oh. Et pourtant, quelqu'un va vous dire, vous savez, dans votre Bible là-même, c'est écrit, il n'y a point de Dieu, mais vous-même, vous adorez Dieu. Mais c'est écrit, il n'y a pas de Dieu. Oui, mais c'est écrit comment? C'est écrit comme ça, l'insensé dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Le fait que la Bible dit, il n'y a point de Dieu, ce n'est pas ce que la Bible veut dire. C'est dans une phrase de l'insensé. Vous savez, un jour, il y avait un débat biblique entre des frères chrétiens avec d'autres frères d'une autre religion. Alors, ils ont levé la main, ils ont dit, est-ce que vous savez, vous-même, vous êtes en train de prêcher aux gens l'évangile et tout ça, mais votre propre Bible dit que votre foi est vaine parce que Jésus n'est pas ressuscité. Oh. Ils sont allés dans les textes où Paul dit, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, donc notre foi est vaine. Ils ont considéré ça comme une affirmation. Si vous ne tenez pas compte du contexte, mes amis, vous n'allez pas comprendre la Bible, vous n'allez pas bien l'interpréter. Et souvent, quand vous êtes en face de quelqu'un qui veut tordre le sens, il vous citera un texte, il vous citera un passage en dehors de son contexte. Vous voulez bien interpréter la Bible, dézoomez chaque fois. Vous voyez ça? Exactement comme on vient de le faire. Du coup, tout à l'heure, vous me voyez seul autour de moi, là, comme ça. Mais vous ne saviez pas qu'il y a cette lampe, cette fleur, ce tapis, cet écran, cette table. Vous ne saviez pas qu'il y avait tout ce qu'il y a autour de cette, à l'intérieur de ce plateau. Le contexte, c'est dézoomer le texte principal. Au point que vous voyez tous les restes, ça vous permet de bien comprendre. OK, il était là, pourquoi? Ah, je comprends. Oh, j'ai vu le pasteur Tom en train de parler. Oh, c'était Teach. Tu as le contexte. Septièmement, la règle de la première mention. La règle de la première mention stipule que la première fois qu'un mot, un objet ou un incident a eu lieu, a été mentionné dans la Bible, cette première fois-là donne déjà une idée des éléments de son interprétation dans la suite de temps. Vous verrez très souvent cette règle être utilisée dans l'étude de concepts ou de notions dans la Bible ou des mots. On veut parler de l'adoration, on va chercher la première fois où le mot adoration est apparu dans la Bible. Littéralement, tout le mot, sans son radical, pas le radical, mais tout le verbe quand il est présenté dans la Bible, on est dans Genèse chapitre 22. C'est Abraham qui est en train de dire, il dit à ses serviteurs, vous restez ici, moi et l'enfant, nous allons monter à la montagne pour adorer. Mais son radical apparaît un peu plus tôt, lorsque Abraham voit les anges venir, lorsque Abraham a besoin de se... Abraham a besoin de se prosterner, de s'agenouiller en tenant son bâton. Il y a un petit radical qui apparaît déjà. Mais le mot en soi apparaît normalement dans Genèse chapitre 22. Ce que je viens de faire là, c'est d'appliquer la loi de la première mention. Autour maintenant de la première fois où le mot « adorer » apparaît dans chapitre 22 de Genèse, où Abraham est censé amener Isaac, tous les éléments, la plupart d'éléments qui sont là dans ce contexte, lorsqu'on commencera à parler d'adorer après, jusque dans le Nouveau Testament, ces éléments viendront toujours. Ils apparaîtront d'une certaine manière. Ça sera toujours question d'offrande. Ça sera toujours question du Fils unique. Ça sera toujours une relation avec le Père. Ça sera toujours un sacrifice. Ça sera toujours une affaire de monter plus haut. Ça sera toujours une affaire où le Dieu Tout-Puissant lui-même pourvoira à l'offrande. Il y aura toujours des éléments comme ça qui vont se manifester, qui seront permanents et répétitifs dans l'histoire de l'adoration. Ce qu'on appelle la loi de la première mention. Vous voulez étudier un concept, il est bon d'aller la première fois ce concept, cet événement se manifester pour la première fois. Donc, par exemple, dans l'idée de la Pâque, vous voyez la Pâque, vous voulez comprendre la Pâque dans le Nouveau Testament, allez vers la première Pâque. Voyez comment la Pâque a évolué et vous rendrez compte qu'il y a quelque chose depuis le début de la Pâque qui va se manifester jusqu'en Christ, notre Pâque. Je viens de vous enseigner et de partager avec vous les règles qui peuvent vous aider à interpréter la Bible. En tenant compte de ces choses-là, en les appuyant sur les éléments que vous avez rassemblés pendant l'observation, vous voilà un bon disciple capable de dévorer les Saintes Écritures. Je vous en supplie, mes frères, prenez le temps de pratiquer ces choses. Vous êtes devant votre Bible, vous êtes déterminé à faire une étude, prenez les notes de Teach. Regardez, vérifiez, posez-nous des questions s'il le faut, mais prenez le temps de pratiquer ce chose-ci. Et aimez la parole de Dieu. Je voudrais partager avec vous mon cœur en vous disant que ici à MCI, nous sommes tellement déterminés à rendre la parole de Dieu disponible, simple pour chacun d'entre nous et surtout comme un style de vie. Nous désirons faire des disciples. On est conscient que faire des disciples, aller partout faire des disciples, apporter la parole de Dieu dans les maisons, ça demande des moyens, ça demande qu'on soit équipé. Jésus en parlait quand il les envoyait. Il savait qu'ils avaient besoin des sacs, qu'ils avaient besoin. Ça demande des moyens. Depuis un moment, on se dit, poussons ceci plus loin, vers là où les seigneurs attendent nous. C'est pourquoi on voudrait que quiconque ait déjà été partenaire ces années passées continue à l'être. J'aimerais encourager tous les partenaires de MCI et leur dire merci pour toutes ces années où vous n'avez pas cessé de soutenir MCI. J'aimerais vous encourager de continuer encore à soutenir MCI. Et j'aimerais aussi encourager ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bienvenue, bienvenue dans la famille des partenaires, de ceux qui se mettent ensemble pour que nous poussions la parole de Dieu dans le cœur, dans les vies, dans les nations, et de plus en plus gagner de l'espace pour Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en pleine campagne où on voudrait que vous puissiez vous rejoindre à nous. Puissez nous joindre dans ce grand programme, dans ce grand défi que nous avons de l'Évangile. 20 000 partenaires, dont chacun donnerait 35 euros par mois seulement. Mais ce sont des partenaires mensuels. Chaque partenaire a décidé que chaque mois, il donnerait 35 euros. Et ces 35 euros vont beaucoup, beaucoup, beaucoup nous aider. Alors, à travers ce que vous allez donner, il y a une merveilleuse application qui rendra encore très facile la tâche que nous sommes en train de faire avec Teach et qui vous aidera à bien grandir dans votre foi. Alors, bienvenue dans cette grande famille de partenaires et je prie que le Seigneur se souvienne de votre sacrifice. Alors, pour moi, je vous dis au revoir. On se voit demain, n'est-ce pas? On a encore des choses à se dire dans ce même thème. Que Dieu vous bénisse. Let's Teach. Grandissons ensemble.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.